Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Françoise Thibault.
Continuons notre voyage dans les années 1808-1809 et puis également un peu après de l'Empire et du gouvernement de Napoléon Bonaparte. Nous allons aborder un aspect qui est rarement traité parce qu'il faut être un fin spécialiste de l'époque napoléonienne. Ce sont les finances et l'économie dans les guerres napoléoniennes. Thierry Lenz, nous avons terminé la première séquence sur cette perspective d'une crise à la fois financière et économique qui est due finalement peut-être à une stratégie européenne qui était à la fois trop vaste et trop vite menée. Est-ce que vous pourriez approfondir cette vision ?
Oui, je crois que ce qui est vrai de nos jours est vrai aussi à l'époque napoléonienne, c'est que un État ne peut pas avoir de politique sans finances, ou si on préfère, il ne peut avoir que la politique que lui permettent ses finances. Alors, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas vraiment décrit la façon dont Napoléon a financé à la fois ses guerres, mais aussi les réformes intérieures, les grands travaux qui ont été programmés, etc. Alors, il se trouve que ces sujets avaient été, au fond, assez peu étudiés jusqu'à ces dernières années, jusqu'au moment où a été publié par Pierre Branda un livre que je recommande à tous vos auditeurs, qui s'appelle « Le prix de la gloire, Napoléon et l'argent », qui est donc paru chez Fayard en 2007. Ce livre est un livre qui permet une lecture de l'épopée uniquement ou très largement à travers l'histoire de l'argent pendant cette période. Alors, pour résumer un petit peu la thèse de Pierre Branda, c'est que Napoléon, qui est un homme d'argent, c'est un homme que l'argent intéresse, qui sait le manier, qui a su en gagner beaucoup, Napoléon a créé un système fiscal moderne de telle sorte que, eh bien, il puisse avoir les moyens de ses ambitions et je dirais que d'après les conclusions de Pierre Branda, il laisse la France en 1814 et non en 1815, car là c'est une autre histoire. Il laisse la France en 1814 à peu près dans l'état financier où il a trouvé, c'est-à-dire avec un déficit à peu près équivalent. Mais entre les deux, il a quand même réussi à conduire plusieurs guerres et des guerres parfois assez coûteuses sans mettre en péril réellement les finances publiques, ce qui n'avait pas été le cas par exemple de Louis XVI au moment de la guerre d'indépendance américaine où on avait envoyé quelques régiments et quelques bateaux et tout ça avait coûté fort cher et mis les finances publiques à genoux. Donc on est en présence de la création d'une fiscalité moderne par Napoléon qui s'appuie notamment sur la négation d'un des objectifs de la Révolution, qui est la reconstitution des contributions indirectes. On a souvent dit que la Révolution s'était faite contre ce type d'impôt, et Napoléon, après le Directoire d'ailleurs, qui avait commencé à instiller une petite dose de contributions indirectes, Napoléon, lui, se lance véritablement dans une politique de ce type-là. D'ailleurs, lui-même dit l'État idéal, c'est celui qui fonctionnerait avec très peu d'impôts directs et qui pourrait régler ses besoins en fonction des impôts indirects. On croirait entendre M. Wörth, mais vous voyez, Napoléon l'avait déjà dit à l'époque. Et c'est à peu près ce qu'il va essayer de faire. Sauf que, dans le cas de Napoléon, comme dans le cas de tous les États, on ne règle que très rarement à la baisse le niveau de l'imposition indirecte. Alors Napoléon donc recrée toute une série d'impôts indirects, il crée une administration fiscale extrêmement efficace qui arrive dans les bonnes années de l'Empire, entre 1809 et 1810, donc au moment où elle donne sa pleine mesure à lever quasiment la totalité des impôts.
C'est perçu comment ? Par les Français.
Alors, au fond, on le sait pas trop. Hein. On ne le sait que, je dirais, par les rapports de police qui ont été donnés, mais les rapports de police ne donnent que les mauvaises nouvelles. On le sait par les mémoires qui ont été écrits ensuite. On le sait par l'opposition à Napoléon, notamment toute toute la partie légitimiste qui avait dans son programme politique la suppression de ce qu'on appelait les droits réunis, c'est-à-dire l'ensemble des impôts indirects, ou quasiment l'ensemble des impôts indirects. Bon, ce qui est certain, c'est qu'il y a eu, quelques émotions fiscales dans les régions. Il y a par exemple un certain nombre de taxes qui autorisaient l'administration fiscale à visiter les stocks. Mais à visiter les stocks à la fois des entreprises, si on veut utiliser un terme moderne, mais aussi à visiter les stocks des particuliers, notamment tout ce qui concernait les taxes sur les boissons alcoolisées, et notamment le vin. Donc là, il y a eu effectivement de la résistance à ce genre de pratique de l'administration. Et il y a des épisodes d'émotions populaires, pas d'émeutes quand même, sur ce sujet-là. Donc c'est une pression fiscale qui n'était pas totalement insupportable. Hein. Elle était, le maximum a été d'une quinzaine de pourcents, bon, ce qui était quand même déjà beaucoup, mais qui a été aussi accompagné d'une réelle hausse des salaires pendant la période napoléonienne, ce qui fait que, bon an, mal an, les choses ont été assez bien supportées. Elles l'ont été beaucoup moins sur la fin de la période, donc après la campagne de Russie, parce que là, il a fallu créer des impôts nouveaux. Alors, on les créait sous forme de ce qu'on appelait les centimes additionnels, c'est-à-dire qu'on rajoutait des centimes par franc d'impôt payé. Et là véritablement, là, on touchait d'ailleurs à la fiscalité directe, là, la fiscalité a commencé à être assez lourde. D'ailleurs, la première restauration tout en maintenant les droits réunis, contrairement à ce qui avait été annoncé, a maintenu aussi un certain nombre de centimes additionnels et puis a fini par amnistier tous ceux qui avaient résisté à cette imposition un petit peu forte, parce que ça n'était pas dans les mœurs du temps que d'imposer de la sorte les populations.
Il y a également un aspect économie de guerre et un aspect fourniture aux armées. Je suppose que cette armée, toujours en mouvement, toujours en action, génère une activité de fabrication, de fourniture, d'accompagnement qui est important.
C'est vrai. Et Napoléon avait coutume de dire que la guerre nourrit la guerre. Mais en réalité, là aussi, les études que Pierre Branda a menées montrent qu'au fond, si c'est vrai sur une armée en mouvement, ça l'est moins sur la création d'une armée. L'idée, c'est simplement que, votre armée peut se nourrir, peut s'équiper sur le dos de l'ennemi, en quelque sorte, ce qui est le cas généralement, mais qu'au départ, vous avez en quelque sorte un investissement de départ à consentir, qui est l'équipement des troupes, qui est les frais de recrutement, qui est les frais de mise en route, la solde de ces soldats aussi est à régler. Donc, ce qui fait que, au fond, lorsqu'on fait le bilan un petit peu des guerres napoléoniennes, on s'aperçoit que la guerre n'a pas payé la guerre et que le fameux déficit de 500 millions, de 500 millions qu'on trouve à la fin, c'est un déficit qui est essentiellement dû à la guerre. D'ailleurs, Napoléon le savait, et les économistes du temps et les financiers du temps le savaient tellement que la Grande Armée a stationné en dehors du territoire pendant très nombreuses années. Après la campagne de Prusse de 1806, la Grande Armée est restée pratiquement 3 ans et demi en Prusse à être nourrie sur le territoire de son ancien ennemi, avec en plus des indemnités de guerre qui servaient à payer la solde et les approvisionnements.
Qui n'étaient pas négligeables.
Qui n'étaient pas négligeables et qui n'étaient donc pas imputées à ce moment-là au budget français.
De même, si j'ai bonne mémoire, les dotations des maréchaux à partir de 1808 ou 1809 sont prises sur le duché de Varsovie.
Alors votre mémoire est excellente, puisque Napoléon a mis au point un système en marge des finances publiques, qui est le système qu'on connaît sous le nom de domaine extraordinaire, qui est en réalité une caisse à laquelle lui seul avait accès et qui était une caisse dans laquelle on versait toutes les indemnités de guerre. Donc ça a représenté plusieurs centaines de millions à la fin de l'Empire. Et ce domaine extraordinaire qui était organisé, hein, c'était pas une caisse noire, hein, cette caisse-là servait à doter, évidemment, servait aussi de temps en temps à prêter à l'État, ce qui était un prêt entre deux caisses publiques, en quelque sorte, et puis à assurer la dotation des maréchaux sur des revenus de terres qui étaient confisquées ou en tout cas mises dans le domaine extraordinaire à l'étranger.
Emmanuel de Varesquel, dans Les 100 jours, vous expliquez très bien que en 1814, l'état financier de la France est plutôt pas trop mauvais, mais qu'après les 100 jours, la situation financière est carrément catastrophique. Quelle est la raison de ce changement ?
C'est le coup de la reprise de la guerre européenne en 1815. la formation d'une nouvelle coalition contre Napoléon après son retour de l'île d'Elbe et la création d'une armée de guerre, le passage d'une armée de paix qui est celle de la première Restauration à une armée de guerre entre le mois d'avril et le mois de juin 1815. Et puis c'est aussi dû au coût financier et économique du traité de paix qui sera signé après la défaite de Waterloo, entre juillet et novembre 1815, qui pour la première fois va être un traité extrêmement sévère à l'égard de la France. Des indemnités vont être demandées à la France, une occupation partielle du territoire va être imposée à la France pendant 5 ans. Ces indemnités qui n'avaient pas été demandées à la fin de l'Empire, après la première abdication dite de Fontainebleau en 1814, le sont. On ne pardonne pas à la France parce qu'elle est récidiviste, parce qu'elle fait à nouveau peur à l'Europe, et on veut vraiment demander des garanties de paix. Et ces garanties de paix, encore une fois, passent par la surveillance politique, diplomatique et militaire du territoire français, par la construction la reprise d'une vieille politique européenne qui est la politique des barrières, c'est-à-dire la construction de forts aux frontières du nord de la France le long du royaume de Hollande, et par une mise à genoux de la France via des indemnités qui s'élève à 700 millions de francs de l'époque, c'est la première fois que la France avait à payer des indemnités de guerre depuis la Révolution.
Merci, messieurs.